Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Pourquoi et comment restaurer la discipline et la rigueur dans nos universités? On en parle aujourd'hui avec Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Monsieur l'abbé, Monsieur le recteur, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour Jody Kachama, merci beaucoup.
Bien, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons échanger sur le contrôle des documents des bords sur les routes de Kinshasa. Comment évolue cette opération lancée depuis le 26 janvier 2026 par le gouvernement provincial de Kinshasa. On en parle dans la deuxième partie de cette émission à partir de 11h05. Alors, de Kinshasa, pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Composez le 085-42-11-547. 085-42-11-547. Benjamin Moudoumbi réalise cette émission à la coordination Jocelyne Moussaou. Jonathan Chimanga s'occupe des plateformes digitales et Paul Badenyama à la mise en onde. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien. L'indiscipline et le manque de rigueur minent la qualité de la formation dans certaines universités congolaises. Ces établissements, qu'ils soient publics ou privés, sacrifient la qualité sur l'autel de la quantité. Les vices antisociaux, la légèreté, la corruption endémique, la médiocrité, le vol, la précarité, l'insalubrité, la violence et tant d'autres antivaleurs sont désormais à l'ordre du jour. Par ailleurs, les cours sont dispensés à la sauvette, les évaluations ne sont pas toujours fondées sur les critères de la méritocratie, etc. Alors, les conséquences se font sentir sur les faibles niveaux de certains étudiants qui obtiennent des grades académiques sans pour autant être capables de lire, d'écrire et de réfléchir correctement et de faire montre des valeurs. Voilà. Alors, comment rétablir la discipline et la rigueur au sein de nos établissements d'enseignement supérieur universitaire? On en discute aujourd'hui avec notre invité, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure. Il s'agit de Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Monsieur le recteur, ravi de vous avoir encore une fois aujourd'hui dans cette émission. Alors, pourquoi la discipline et la rigueur manquent dans certaines universités aujourd'hui?
Bon, je pense que j'ai suivi votre diagnostic. Il est assez sévère. Et malheureusement, il est aussi juste. Mais j'aimerais que, avant de l'aborder, qu'on puisse d'abord dire une chose, c'est que notre université ressemble à notre pays. En fait, parler de l'université congolaise, c'est aussi parler du Congo.
C'est le reflet de la société congolaise.
C'est le reflet de la société congolaise, même si l'université, par ailleurs, appelée à former l'élite, à être plus ou moins l'une des institutions qui indique la direction à suivre. Oui. Et donc, cette université, elle est congolaise, donc elle ressemble au pays. Et notre pays est un pays, si je peux dire, malade. est une maladie qui a plusieurs faces. Mmh. Et l'une des faces de cette maladie, c'est l'indiscipline. On peut déjà le constater, par exemple, ici à Kinshasa, l'utilisation de la route, quoi. Mmh. Comment est-ce que nous occupons nos routes? Vous avez parlé de corruption. Ça ne se pratique pas seulement
à l'université.
Donc,
oui,
c'est un peu, l'université est une photographie. Mmh. De ce que c'est que notre pays. Mais l'université a quand même une vocation particulière, parce que le Congo a tout. Le Congo a toutes les ressources matérielles dont il a besoin pour décoller, pour être un pays prospère, selon les rêves de père de notre indépendance. Mais au Congo il lui manque quelque chose. C'est quoi? C'est les ressources humaines à la hauteur disons, à la taille du Congo. Nos ressources humaines, donc les ressources humaines au Congo, la main-d'œuvre au Congo dans tous les domaines est généralement mal formée, incompétente et malhonnête. Et c'est aussi une responsabilité de l'université, dans la mesure où elle est appelée à être une institution spécialisé dans la formation
de l'élite
du pays, l'élite intellectuelle du pays, l'élite professionnelle, l'élite technique.
Et pourquoi l'université ne peut pas corriger toutes ces antivaleurs qui viennent de la société? Parce qu'on suppose que c'est un lieu d'excellence.
Oui, mais là, c'est un mouvement général. C'est-à-dire, ça doit concerner l'ensemble du pays. C'est pas seulement une solution isolée, par rapport, donc, il y a une petite technique que j'ai déjà évoquée ici, un peu comme à partir de mon expérience. Ça va faire 5 ans que je dirige une université publique. J'ai l'avantage d'être prêtre, donc d'avoir fait ma formation, la grande partie de ma formation depuis le petit séminaire dans des institutions de l'Église catholique, et donc la possibilité de comparer qu'est-ce qu'il y a dans les institutions catholiques, dans le petit séminaire, le grand séminaire, les universités catholiques, et qu'est-ce qui manque dans les institutions de l'État, qui font que les institutions de l'Église catholique, en principe, fonctionne mieux. Il y a encore une éthique de base, au moins dans tout ce qui est formation académique. Alors, là, il y a un problème qui se pose. Et la solution n'est pas seulement liée à l'université. C'est une solution qui concerne l'ensemble du pays. Donc, je pense que la première responsabilité revient à l'État. Pendant des années, notre État est un État qui a négligé ou sacrifié l'université. Dieu merci, depuis quelques années, on sent un État engagé dans la reconstruction de son université. Moi-même, je suis recteur de l'une des nouvelles universités construites par l'État depuis plus de 60 ans. La semaine dernière, j'ai assisté à l'inauguration de l'université de Kananga, et d'ici peu, c'est Bounia, c'est d'autres universités. Bien. Donc, il y a toute une série qui est en marche. Donc, on sent de la part de l'État déjà un engagement pour l'université. Cet engagement se manifeste d'abord au niveau des infrastructures. Il va falloir aussi accompagner ces universités-là. Et il va falloir aussi avoir une politique de promotion du corps académique et du corps scientifique.
En passant, on a suivi au cours d'une émission organisée à l'Université officielle de Mbujima, et les étudiants qui se sont plaints, il y a trop de rigueur, l'abbé recteur, le comité de gestion est trop rigoureux, il suffit pour un petit rien, c'est fini, on vous renvoie.
Oui, bon, là je disais qu'il y a le travail que l'État doit faire pour que ces universités soient des véritables universités, les infrastructures, le personnel qu'il faut, mais il y a aussi le travail que doivent faire les gestionnaires. Donc, quand on vous confie une université, c'est pour que vous l'aidiez à être une véritable université. Et ce que nous faisons, que ce soit à l'Université officielle de Mbujima et dans d'autres universités, nous ne l'inventons pas. Les textes existent. Et les textes sont tout à fait clairs sur ce qui doit être fait dans une université pour que ça fonctionne bien. Alors, il y a plusieurs problèmes qu'il faut résoudre. Le premier problème, c'est la relation au temps. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie dans une université, il y a le temps qu'on doit consacrer à la formation. Quelle est la relation de l'étudiant au temps qu'il doit consacrer à l'université, à ses études? Et là, souvent dans nos universités, on n'a pas la maîtrise des effectifs. Pourquoi? Parce que les étudiants prennent inscription parfois à la fin de l'année.
Ah bon?
C'est dû au fait que, en fait, l'État, qui est en train de se réveiller, qui est en train de nous accompagner maintenant du point de vue des infrastructures, ne donne pas toujours aux universités les moyens de fonctionner. Mmh. Et donc, les universités dépendent des frais académiques des étudiants à presque 100%. Mmh. Et donc, vous avez besoin d'eux pour faire fonctionner l'université.
Tout à fait.
Et donc, vous avez des inscriptions, donc, qui sont ouvertes.
Jusqu'à la fin de l'année.
Malheureusement. Dans la mesure où, moi je peux vous dire, je peux aller dans des auditoires où vous avez, je ne sais pas moi, 10 000 étudiants, mais qui sont inscrits, vous avez peut-être 5 000 étudiants qui sont inscrits. Mais vous avez besoin des autres, en fait. Mmh. Parce que c'est eux qui vous donnent les moyens de fonctionner. Mais
vous êtes un peu large parce que vous savez qu'ils finiront par payer.
Ils finiront par payer parce qu'ils ont. Alors, là c'est un problème. Alors, je disais, il y a le problème de la relation au temps.
Au temps, oui.
Donc, le sens de la ponctualité, le sens de, j'ai l'obligation de participer aux enseignements. Or, vous pouvez avoir quelqu'un qui est supposé être étudiant chez vous, mais qui vit à Kinshasa et qui se présente à l'université
seulement lors des examens,
des
évaluations,
ou alors qui s'est fait remplacer par des mercenaires qui font des examens pour lui. Et donc il y a cette relation au temps, ou bien l'étudiant qui vient quand ça l'intéresse. Oui. Donc là c'est un problème sérieux qu'il faut résoudre. À l'université officielle de Mbujimayi, nous venons d'acheter des machines de contrôle de présence par empreinte digitale. Elles seront installées bientôt pour chaque promotion, de sorte que on vérifie combien de temps vous avez été au cours. Donc quand vous arrivez
vous
et quand vous repartez,
donc
par empreinte digitale. Donc c'est une manière. Donc il y a quand est-ce que un étudiant qui arrive, le cours commence à 8h, il arrive à 9h, il arrive à 10h. Donc tout ça c'est des problèmes, il faut gérer cela. Et lorsque c'est dans des hangars comme c'était le cas avant, c'est difficile de contrôler dans des hangars dispersés. Maintenant que nous avons disons déjà une solution partielle, on a un campus qui est là, c'est l'un des problèmes qu'il faut résoudre.
Un instant, monsieur l'abbé, on va accueillir les auditeurs. Pourquoi et comment restaurer la discipline et la rigueur dans nos universités? Merveille Lutumba, vous êtes à Mbujimayi. Justin Koulou à Fungurume, dans la province du Lualaba. Merveille Lutumba, bonjour.
Allô.
Bonjour Lutumba.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, Merveille Lutumba? Nous parlons de la discipline et la rigueur dans nos universités. C'est fait? Bon, il ne l'a pas fait. On va prendre le deuxième. Justin Koulou, depuis Fungurume, dans le Lualaba. Bonjour. Justin Koulou, merci d'ouvrir vos micros. Sinon, là, on ne sait pas vous entendre. Allô? Bien, on va poursuivre.
Oui.
Il y a un troisième auditeur qui est en ligne. Vous voulez participer à cette émission, le standard est ouvert. Composez le 085 42 11 545. Nous avons en ligne Monsieur Jean, bonjour. Allô Jean, bonjour. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour Monsieur Jean, qu'est-ce que vous avez à nous dire? D'abord, vous nous appelez à partir d'où? Allô? Je crois qu'il y a un souci au niveau de la liaison téléphonique. Voilà, on va poursuivre avec vous, monsieur l'abbé.
Donc, il y a le problème de ponctualité. C'est-à-dire, on a un horaire de travail, il faut arriver à telle heure, partir à telle heure. Lorsque vous êtes étudiant, vous êtes tenu de participer au cours et il y a un minimum, donc, pour qu'on dise qu'il a été étudiant, pas quelqu'un qui n'a jamais été au cours. Donc là, c'est un problème, donc il faut y aller. Mmh. Alors, à l'université, on vient travailler. On ne vient pas seulement gagner des diplômes. Donc, il y a une relation aux études, une relation à la recherche, une relation au travail. Et donc, c'est important. Il faut que des gens participent à toutes les activités qui sont prévues pour eux parce que c'est un temps de formation.
Oui.
Et ces activités sont soumises à des évaluations. Alors, lorsque l'étudiant, au moment de l'évaluation, au lieu de se faire évaluer, il triche, par exemple, là, c'est du vol, en fait. Mmh. Et
là-bas, c'est, dès qu'on vous attrape en train de tricher, c'est fini.
On arrache la copie et
vous êtes renvoyé.
Non, on n'est pas renvoyé automatiquement. Oui. C'est-à-dire, il y a plusieurs degrés de sanctions.
Oui.
Ça peut aller de l'annulation de l'examen pour lequel vous avez triché. Ça peut être l'annulation de toute la session, mais ça peut être aussi le renvoi. Mmh. Hein? Et généralement, les renvois, nous les appliquons dans les cas de corruption avérée. Dernièrement, je pense que nous avions renvoyé quelques dizaines d'étudiants pour
la faculté de médecine.
Pour corruption. Et donc, là, on sanctionne. Ils ont fait des recours, on a dû commuer le renvoi définitif en renvoi sur l'année 2024-2025, mais du moment qu'ils sont rattrapés par le système LMD, ça veut dire qu'en fait, ils doivent d'abord avoir un diplôme de licence en médecine, donc du premier cycle, pour passer au deuxième cycle, alors que en principe, ils auraient dû être en troisième année du deuxième cycle.
Donc c'était une tricherie collective, si je comprends bien.
Une corruption, donc un cas de corruption.
Corruption, établi, voilà.
Oui, organisé, et donc là, on peut sanctionner.
Et les enseignants ont été aussi sanctionnés.
Ah oui, absolument. Parfois, les gens sont pressés, c'est-à-dire lorsque un étudiant, la procédure elle est plus courte, quand vous êtes attrapé, que c'est établi, la sanction est appliquée, un enseignant, la procédure peut prendre environ 2 mois. Environ deux mois. Alors parfois, les gens peuvent commencer à faire du bruit. On a renvoyé les étudiants, on n'a pas renvoyé les enseignants. Mais non, les procédures sont totalement différentes. Donc on l'applique. Mais tout ce qu'on attrape
pour les
dans
enseignants,
les cas,
la décision doit venir du ministère ou c'est le comité de gestion qui décide.
Si l'enseignant est assistant, là son mandat dépend du recteur. Le recteur lui retire le mandat. Mais s'il est chef de travaux ou s'il est professeur, là et il dépend du ministère, c'est-à-dire nous le mettons à la disposition du conseil d'administration des universités, qui va évaluer son cas et qui peut décider soit il n'est pas renvoyé ou il retourne, ou qui demande à la ministre de prendre la décision. Donc là, ça ne dépend pas de nous. Donc ce qui dépend totalement de nous, ce sont les assistants.
Les assistants. Joseph Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Okapi, bonjour.
Oui, on vous écoute, Joseph Richard. Quelle est votre question?
Oui, je salue d'abord la présence de l'autorité de chez nous, de Célabé Aponer, Tibaka, Tikongo.
Ok.
Et aussi, contribution à l'émission Malqué, je m'inspire pour entrer en route, j'ai entendu que l'émission avait déjà commencé.
Quelle est la question?
Oui. Ma question de curiosité était que nous avons des mises en disponibilité, comment continuer avec les études civiles. Je suis diplômé en pédagogie générale à la petite Colaï en Gandangika, là où nous sommes. Connaît bien. Alors, selon notre service, j'avais eu une plainte. On m'avait donné le document de mise en disponibilité pour continuer les études. Je pouvais m'inscrire à l'UN. Alors, je voulais demander comment puis-je passer.
D'accord.
Bon, si je comprends bien, là, ça va. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui veulent étudier chez nous. Donc, c'est bien.
C'est
donc,
ça.
Disons, pour l'inscription, là, il y a un service, donc, d'inscription. Il est question de déposer le dossier complet en bonne et due forme. Donc, si vous allez sur la page web de l'Université officielle de Mbujimayi, donc, uom.cd, vous pouvez d'ailleurs, il y a une fiche que vous pouvez remplir en ligne et être inscrit. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez prendre l'information de ce côté-là sans problème.
Mais il parlait d'une mise en disponibilité.
Je comprends bien par rapport à son poste d'attache qui est le collège Colaï dont il a parlé. Oui.
Bien, nous parlons de pourquoi et comment restaurer la discipline et la rigueur dans nos universités. Vous avez parlé premièrement de la relation au temps.
Au temps, oui.
La ponctualité.
La participation aux activités.
Aux activités, oui, autre chose.
Le travail. Le travail avec... Il faut avoir toute une philosophie de vie, c'est-à-dire se réjouir de l'échec honnête et répudier de toutes ses forces toutes les réussites malhonnêtes. Et donc là, c'est un problème qu'il faut résoudre. Il y a aussi maintenant le problème des civilités, tout simplement. Les gens ont parfois l'impression que quand on entre à l'université, on est en fait dispensé des normes de civilité, de bonne éducation, de bonne manière, tout est permis. J'avais suivi l'autre jour des étudiants qui se plaignaient justement en disant que les policiers, les traites, je ne sais pas quoi.
Oui, comme des élèves.
Oui, je ne sais pas quelle est la différence. Mais en même temps, vous en avez, par exemple, il y a un étudiant qu'on a renvoyé parce qu'il avait, par exemple, il avait frappé les messieurs qui s'occupent de leur arranger la salle, de placer pour eux des chaises afin qu'ils puissent étudier.
Et pourquoi il a frappé?
Justement, par manque de civilité. Mmh. Alors, quelqu'un comme ça, il n'est pas à sa place à l'université. Ou quelqu'un, il y a des étudiants attrapés en pleine tricherie et qui frappent les surveillants, les enseignants qui les ont attrapés. Mmh. Et donc, il y a une question de civilité. Fait que être à l'université, c'est être un monsieur. Et donc, avoir de bonnes manières. Il y a l'autre champ, c'est le champ, si je peux dire, de la propriété, le sens du patrimoine. Bien garder les biens que l'État a mis à notre disposition pour le travail. Vous avez par exemple un laboratoire d'informatique avec des ordinateurs. Des étudiants entrent pour leur formation. C'est des ordinateurs auxquels tout le monde a droit et accès. Et puis il y a 3-4 ordinateurs qui disparaissent. Oui. Ça va. Donc là, il faut agir. Donc c'est ça. Il faut contrôler tout ça. Il faut se rassurer que il y a eu 100 ordinateurs. Ils ont utilisé les 100 ordinateurs et qu'ils ont laissé les 100 ordinateurs en place.
Donc soit les accessoires qui disparaissent.
Donc là, c'est un problème. Il y a maintenant le respect de tout le patrimoine, c'est-à-dire le sens de la propriété. Vous avez une nouvelle université comme la nôtre, on doit veiller à ce que dans 3-4 semaines, qu'elle ne devienne pas une poubelle. Et or, vous connaissez nos habitudes, des gens qui entrent et qui se mettent à écrire les noms.
Le nom sur les bancs, sur les ou bancs, dans les toilettes, oui, ils écrivent les noms sur les murs.
Ah, il faut veiller à tout ça. Alors, tout au début, il y en a, dès le premier jour, il y en a qui ont fait ça. Alors, on a dû décréter pour toute la salle, tout l'auditoire, chacun d'eux devait apporter 2000 francs afin qu'on achète le produit pour essuyer.
Pour nettoyer.
Sinon, si vous ne dénoncez pas, vous tous vous assumez la responsabilité. Parce que là, c'est quand même un grand effort. Après des dizaines d'années d'oubli de l'université, l'État vous confie
un bâtiment
des bâtiments de ces gens-là.
Vous permettez
il faut y veiller. Et donc, nous ne faisons rien d'exagéré, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est aider les gens à pouvoir évoluer dans des structures normales et à bénéficier d'une formation de qualité.
Bien, on va accueillir Justin Koulou de Fungurume et Jean Kalenga depuis Mbujimayi. Justin Koulou, bonjour. Merci d'ouvrir vos micros. Justin Koulou, vous êtes en ligne depuis Fungurume dans le Lalaba. Voilà, on me fait signe qu'il n'est plus là. Jean Kalenga depuis Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, monsieur Kalenga.
Oui, je suis très content d'être branché sur votre micro. Et je voulais un peu demander à monsieur Labère pourquoi il y a un problème de tricherie. Donc, les assistants de n'ont pas vraiment, ils ne travaillent pas comme il faut. Parce que nous, les étudiants, on souffre beaucoup. On trouve qu'il y a un assistant qui n'est pas en bonne relation avec les parents à la maison. Quand nous venons au cours et il commence à parler mal, vraiment, ça nous dérange beaucoup.
Bien,
bon, monsieur Labbé. Bon, merci beaucoup, Jean Kalenga. Donc, je suppose que c'est l'un des étudiants chez nous. Mmh. En fait, la tricherie, disons, je m'excuse de faire appel à mon expérience. Mmh. Nous, on a appris depuis le petit séminaire qu'on ne triche pas. Et on nous moi, j'ai fait mes études au petit séminaire, au grand séminaire, on ne nous contrôle pas. Pourquoi? Parce que on a éduqué votre conscience pour que quand vous avez à affronter une épreuve d'évaluation, vous le faites honnêtement. Et d'ailleurs, nous, on a été éduqués pour si un ami veut tricher,
faut le dénoncer.
Il faut le dénoncer. Sinon, vous êtes complice du mal. Et donc, ça, c'est une conscience de base qu'on doit avoir. Maintenant, dans nos universités, chaque année, à chaque session, plus ou moins, nous sanctionnons autour de 500 tricheurs.
Chaque année.
Chaque année. Et c'est des cas, on ne sanctionne pas au hasard. Ce n'est pas, on dit là-bas, monsieur, écoutez, il a, non. Il y a toute une procédure. Il y a des PV. Il y a des étudiants qu'on attrape et qui refusent de signer. Voilà. Et il est interdit d'entrer avec des téléphones dans
donc 500
dans
étudiants sanctionnés sur un total de 8000.
Autour de 8000.
8000
oui,
étudiants.
Oui. Donc, qui sont attrapés. Il y en a des plus malins qui échappent. Donc, qui échappent au contrôle.
Ah oui, il y en a toujours.
Donc, là, c'est quand même, il y a toute une procédure. Si un étudiant pense que là, c'est de la vengeance de la part d'un assistant ou je ne sais pas quoi, en principe, nos assistants, c'est des personnes sérieuses et qui ont leur conscience, qui ne sont pas là pour faire du mal. Mais, ça peut arriver.
Qui est règlement des comptes.
D'argumenter. Mais généralement, c'est des cas bien établis où on vous attrape avec des copions, où on vous attrape avec un téléphone alors que c'est interdit. Et effectivement, il y a des cas où il est dans la salle, il photographie l'examen,
il l'envoie dehors, au mercenaire,
on lui envoie
les réponses
et il a les réponses. Donc, généralement, c'est des cas établis et c'est des cas établis devant témoins parce que dans la salle, il n'y a pas qu'un seul surveillant, il y a plusieurs surveillants. Et les cas de tricherie ou de corruption, par exemple, les cas en médecine qu'on a dû sanctionner des tricheries. Écoutez, il y a eu corruption, nous n'étions pas là. Cette promotion avait été déjà même délibérée. Ça va, les résultats étaient connus. Mais c'est un étudiant qui est venu dénoncer pour dire, écoutez, voici ce qui s'est passé dans notre promotion. Comme ça que les jurys a dû annuler sa délibération, les recteurs ont entériné et on a entamé
après
la procédure.
Après vérification,
oui. Il nous a donné toutes les preuves pour dire, voici ce qui s'est passé dans notre promotion. Alors, il y a peut-être des cas d'injustice. J'ai dit, oui, les surveillants ne sont pas des anges, mais dans la majorité, nos surveillants, qui sont des assistants, ils ont des enseignants, sont des personnes honnêtes qui s'efforcent de travailler correctement.
Honoré Tchibouaboua, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour à Radio Kapi.
On vous écoute, monsieur Honoré.
Merci beaucoup de m'avoir associé à la thématique du jour. Moi, je pensais que la lutte contre l'indiscipline et le manque de rigueur dans nos universités doit d'abord commencer au niveau du ministère. Pourquoi j'évoque ceci? Nous pouvons constater que les nominations des membres des comités de gestion sont beaucoup plus basées sur l'appartenance ou l'influence politique, ce qui ne devrait pas être le cas. Ça devrait être basé sur la méritocratie. L'autre problème, c'est que l'expérience aujourd'hui nous prouve que les prêtres catholiques sont des personnes qui sont tellement allergiques à ces phénomènes d'indiscipline et de manque de rigueur. Alors, moi j'ai proposé ceci au ministère de l'Église. Le ministère doit instituer une commission spéciale, indépendante, permanente, dans chaque province. Cette commission ayant une mission de lui donner les informations sur toutes les réalités qui se passent dans chaque institution. Deux, d'intégrer dans la politique de nomination des membres des comités de gestion, les prêtres catholiques sans tenir compte de leur appartenance politique. Si cela ne sera pas le cas, moi je pense que nous allons continuer à vivre dans une catastrophe qui ne dira pas son nom. Parce que aujourd'hui nous avons les universités et les institutions supérieures. Si tu arrives là, on te dit tout simplement que paye seulement les frais académiques et le reste, la réussite
est assurée.
Sans même.
Bien, merci M. Tiboaboa depuis Mbujimaï. Monsieur l'abbé recteur.
Bon, je n'ai aucune réaction.
C'est sa proposition.
Sa proposition, il s'adresse au ministère.
Oui.
Je voudrais seulement dire merci au ministère qui pour la confiance qui est faite à l'Église catholique. Et c'est un champ de collaboration, en fait, qui, je ne suis pas le seul prêtre recteur d'une université publique au Congo. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs religieuses, plusieurs religieux à qui l'État congolais a confié la gestion de ces établissements. Mmh. Donc c'est un champ de collaboration. Parfois, quand on parle Église catholique, État au Congo, on se limite seulement peut-être au champ de conflits ou de désaccords. Non, il y a des champs dans lesquels l'État congolais et l'Église collaborent de manière tout à fait constructive, notamment dans l'enseignement supérieur universitaire, où depuis quelques années, il y a déjà, je pense, une dizaine de prêtres et de consacrés à qui, moyennant l'accord de leurs supérieurs majeurs ou des évêques, l'État congolais a confié des responsabilités. C'est donc un grand défi, parce que pour moi, c'est un champ d'apostolat, en fait. Je suis à l'université, c'est vrai, je suis membre du corps académique,
oui.
Mais je suis d'abord prêtre, et donc je dois plus ou moins témoigner de ma foi.
Monsieur l'abbé recteur, oui, on vous accuse d'être trop rigoureux. Est-ce que vous risquez pas, vous risquez pas de vous créer beaucoup d'ennemis tout autour avec cette rigueur-là?
C'est lui qui vient de parler, j'ai l'impression qu'il ne m'accuse pas d'être rigoureux.
Non, je
non, il y en a qui peuvent dire ça.
Oui.
Mais vous savez, la joie, quand vous êtes sur la route, vous voyez un policier qui vous arrête et qui vous dit « merci beaucoup pour le travail que vous faites ». Et vous voyez quelqu'un qui vous dit « mes enfants, je les avais sortis de cette université-là, je les ai envoyés, je les ai retournés maintenant à cette université-là
».
Donc, il y en a qui accusent, c'est tout à fait normal.
Qui sont habitués aux antivaleurs.
Il y en a qui applaudissent. Non, je ne dis pas qu'ils sont habitués. Non, mais ça doit toujours nous interpeller.
Oui.
Par exemple, les gens vont voir qu'il a renvoyé, mais ils ne voient pas les cas, par exemple, des révisions de décision. Exemple, il y a 6 étudiants que j'aurais dû renvoyer aussi. 6 étudiants de première année de médecine. Ils avaient entre 18 et 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Oui.
Ils ont cotisé 50 000 francs chacun. Ils ont donné au secrétaire du jury de leur classe, de leur promotion, afin qu'ils réussissent. Et un a même fait son recours en mettant dans une enveloppe 9000 francs congolais. Et ensemble, ils lui ont dit, si nous réussissons, nous allons vous donner une chèvre. Qu'est-ce que cet enseignant a fait? Il a pris cet argent, il me l'a apporté. Ça va? Les 359 000 francs congolais, si je ne me trompe pas. Mmh. Il me les a apportés. Et il m'a dit qu'ils m'ont promis ceci. Il m'a apporté les preuves de communication qu'il lui a envoyées. Et la décision aurait été de renvoyer ces jeunes gens-là.
Ces étudiants-là.
Mais je me suis dit, quand un enfant de 18 ans prend l'initiative d'aller corrompre, c'est une accusation contre nous, les adultes, contre nous, les professeurs, contre nous, les éducateurs. Parce que cet enfant qui a 18 ans veut corrompre à l'université, il vient en fait d'une école primaire où il a appris à corrompre. Il vient d'une école secondaire où il a appris à corrompre. Dans quelles conditions se passent nos examens d'État? Dans quelles conditions se passe, je ne sais pas moi, les TENAFEP ou je ne sais pas quoi, toutes ces épreuves-là? Dans quelles conditions se passent les examens dans nos écoles? C'est-à-dire, cet enfant de 18 ans, c'est pas à 18 ans qu'il a appris à corrompre. On les lui a appris depuis longtemps. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit en introduction, notre école, notre université ressemble à notre pays. Et donc, il y a des niveaux, vous pouvez dire, par exemple, vous trouvez un étudiant qui est, par exemple, pasteur et qui corrompt, vous n'allez pas sa sanction va être différente de celle d'un enfant de 18 ans qui corrompt. Et donc, dans ce cas-là, on les a pas renvoyés. Ça va?
On peut les récupérer.
On les a récupérés. Parce que là, quand un enfant de 18 ans corrompt, que fait le recteur devant cet enfant-là? Il doit pleurer. Parce que c'est triste qu'un enfant de 18 ans, à cet âge-là. Mais cet enfant, il a appris ça peut-être à l'âge de 12 ans. Quand il est allé à cet examen général national qu'on organise à l'école primaire, on lui a appris que pour réussir, il faut corrompre. Et aux examens d'État, il a appris qu'il faut faire la même chose. Et quand il vient à l'université, on lui dit qu'il faut faire la même chose.
Et maintenant, que dire de ces enseignants qui obligent les enfants à passer par la corruption? Il vous fait comprendre que il faut absolument...
Donc le problème est un peu général. Mais Dieu merci, il n'y a pas qu'on voit par exemple le cas de cet enseignant qui vous dit, écoutez, c'était lui le secrétaire du jury, il pouvait manipuler leur cote. Mais il a pris cet argent, il est venu pour dire, voici l'argent que les étudiants m'ont donné, voici les preuves, mon téléphone, voici mes communications avec eux. Ils ont promis de me donner une chèvre après. Voici. Mais alors là, ça vous fait de la joie. Mais à côté de ça, vous avez aussi des cas, effectivement, de corruption qui sont tout à fait avérés. Donc il faut les sanctionner. Donc dans chaque cas, il faut juger chaque cas dans son contexte. Lorsque des étudiants de deuxième année de doctorat de médecine, donc des gens qui ont déjà 5 années de carrière, de formation, n'est-ce pas, corrompent, c'est plus grave que lorsqu'un enfant de 18 ans le fait. Oui. Disons, le mal est objectivement le même, mais les circonstances qui l'accompagnent sont tout à fait différentes.
Ferdinand Bukassa, vous êtes à Kinshasa. Bienvenue Kikala Kikwit et Jean Kalinga à Mbujimayi. Nous parlons de la discipline et la rigueur dans nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Ferdinand Bukassa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Ferdinand?
En passant, nous saluons monsieur le recteur, monsieur l'abbé Apollinaire Fubakachi-Kogo.
Oui.
Concernant le sujet d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous voyons que bon, c'est un atout pour nous, pour brandir un petit souci que nous avons concernant notre promotion. Je suis ressortissant de fin de la médecine de l'année 2021-2023. Avec l'arrivée de monsieur le recteur à la tête de notre université, moi personnellement, j'ai ressenti les changements de quelque chose, surtout en ce qui concerne la discipline au sein de l'université. Et cela nous a poussé à réaliser quand même nos rêves, avoir des bonnes comptes à la fin, des bons pourcentages. Ça, là, il n'y a pas un problème. Alors, le grand souci, c'est que nous totalisons déjà 2 ans. Bientôt, là, nous tendons vers la 3e année. On avait déjà déposé nos dossiers pour avoir les diplômes de doctorat, bien sûr. Mais jusqu'alors, il y a une petite partie des médecins qui ont leur diplôme. Et je pense le samedi, s'ils vont passer par la prestation de serment. Mais nous autres, je peux dire 65%, on est là depuis qu'on a déposé nos dossiers. Il n'y a pas
vous n'avez pas une toujours reçu vos diplômes.
C'est une information claire.
D'accord.
Qui peut témoigner...
Bien, merci. On a compris.
Il a raison. Je comprends bien sa souffrance.
Oui.
Et avant d'entrer dans ce studio, j'ai encore rappelé le service qui prépare le diplôme, parce que au mois d'octobre, la ministre avait apporté un grand lot de diplômes en Mbujimayi en donnant priorité à ceux de médecine. Mais il s'est fait que, à l'impression, tous les diplômes n'avaient pas été faits à cause d'un problème d'encre. Donc il y a des diplômes qui étaient imprimés, mais qui étaient tachetés par de l'encre. Et je vais encore rappeler ce service-là avant d'entrer dans ce studio, qui m'ont dit qu'ils sont en train d'y travailler. Et donc il y a ce retard-là qui est lié au service technique qui doivent déposer les diplômes de ces étudiants. Non, ils ont raison.
Ça fait presque deux ans, ils disent ça.
Oui, ils ont raison.
C'est beaucoup quand même.
C'est beaucoup. Donc, ça veut dire, ils ne peuvent pas travailler. Dernièrement, j'en ai vu même un qui dit, alors, trouvez-nous une solution. Peut-être qu'on peut commencer à, au moins, à travailler aux cliniques universitaires pour ne pas perdre les réflexes.
Est-ce qu'on ne peut pas donner un tenant lieu?
Non. Dans les autres facultés, on peut faire un certificat ou je ne sais pas quoi. Mais en médecine, le diplôme est exigé.
Est exigé.
Et donc là, il y a eu un effort de la part de notre ministre. Donc quand elle est venue au mois d'octobre à Mbujimayi, elle avait amené un grand lot de diplômes. Mais fort malheureusement, il y en a, comme je l'ai dit, pour des problèmes techniques qui n'avaient pas été imprimés. Ce matin, j'ai encore appelé ce service-là. Mmh. Ils m'ont dit, voyons si d'ici la semaine prochaine, cela peut être arrangé. Parce que bon, écoutez, là, ils vont rater la prestation de serment pour un document qu'ils méritent depuis déjà deux ans. Vraiment, je m'en excuse, mais c'est pas lié à... C'est un problème technique qui probablement sera vite résolu.
Bien. Discipline et rigueur au sein de nos universités. Bienvenue Kikala depuis Kikwit. Bonjour.
Bonjour, cher Jeudi. Bonjour également à la belle Esther à qui sa rigueur et discipline a fait connaître à tous les Congolais maintenant. Là.
On vous écoute.
Oui, je voudrais dire un truc. Vous avez donné un tableau qui représente actuellement nos universités. Je me dis, la première question avant que je puisse analyser tout ce que j'ai en tête, c'est quelles sont les conditions pour ouvrir une institution supérieure ou une université? Pourquoi je dis ça? Actuellement, moi, je suis dans les Puilou. S'il faut considérer les territoires qui entourent la ville de Kikwit, Liboulou, ici, presque dans chaque secteur, il y a un ISP installé là-bas. Vous verrez qu'il y a même les endroits où on ne pouvait pas installer les institutions supérieures, mais il y en a quand même, où même l'école secondaire manque une bibliothèque, mais c'est de là qu'on installe un ISP. Deuxièmement, moi j'estime que si bien qu'on venait de faire une réforme dans le secteur d'enseignement, mais cela ne suffit pas, parce qu'avec ce truc de LMD, il y a à boire, à manger, même à vomir. On est un peu pressé pour avancer avec le système LMD, mais en réalité, à l'intérieur, il y a une coquille vide. Tout à l'heure, là, nous autres, on est un peu en difficulté avec la ministre qui nous demande de défendre nos travaux de troisième cycle DEA à l'occurrence d'ici au 31 juillet. Moi, personnellement, je me demande, nous sommes pressés par rapport à quoi? Parce que nous voyons la première réforme qu'on venait de faire là, le résultat n'est pas ce qu'on attendait. Pourquoi nous devons aller si vite pour satisfaire les politiques ou en réalité sur le terrain? Nous voyons absolument rien. Je dirais, peut-être qu'avec l'accompagnement de M. l'abbé recteur, que la ministre puisse voir encore la copie. Avec ce système de LMD, je me dis, on est en tête trop bas que la terre elle-même. Nous avons besoin de nos institutions, nous avons besoin de la formation pour les jeunes qui viennent après nous, mais ce qu'on voit maintenant, l'image de nos universités, ça laisse à désirer. Voilà en quelques mots ce que je peux dire.
Merci, monsieur. Bienvenue Kikala, depuis Kikwit. Jean Kalenga, vous êtes à Mbujimayi, bonjour.
Oui, je suis... Je voulais te demander pourquoi mon petit
on vous entend pas très bien, monsieur Kalenga.
Je voulais demander
Non, désolé, là, on vous capte pas très bien. On va accueillir Étienne Uchume depuis Mahagi, dans la province de l'Ituri. Étienne Uchume, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Chama, et salutations à monsieur le directeur qui est au plateau avec vous.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup, aujourd'hui, Daniel Chama, concernant le thème du jour. J'en ai juste un petit constat que j'ai opéré et je vais terminer par un petit conseil concernant la discipline à l'université. Je suis Daniel Kachama, je suis actuellement à Mahagi. Et à Mahagi, il y a les institutions supérieures et aussi les universités. Alors, quel est le constat que j'avais fait? J'étais en route hein, parce que moi, j'ai terminé l'humanité en 2015. Ça fait maintenant 10 ans écoulés. Donc, il y avait des collègues avec qui on a évolué dans une institut, qui sont rentrés continuer l'université. Et par une grande surprise de mon retour, de leur retour de leur institution, donc ils étaient plus de 10 étudiants. Donc tout le monde s'exprime à Lingala. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai intéressé un collègue, j'ai dit, mes chers collègues, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous exprimer en français, par exemple? Je dis, non, tu t'as manqué, moi, alors, je me suis demandé, et j'ai été vraiment choqué par cette façon d'évoluer. Et aussi, il y a un petit là, qui demande à son papa que non, le professeur Assengi avait $5 pour la salle du Pepe n'a été. Bon, des histoires pareilles. Quel est l'avenir de nos futurs? Vraiment, c'est difficile.
Merci beaucoup.
Donc, ce qui concerne la corruption au niveau de l'université, donc moi, je dois cibler les étudiants et aussi certains enseignants qui acceptent les pots de vin de certains étudiants. Donc, une fois, un professeur, par exemple, il est catégorique. Je me rappelle un professeur à l'Institut de Mag ici. Donc, il y avait quelques élèves qui étaient venus les corrompre. Il a pris leur argent là, il a collé contre leur bulletin. Et tout le monde était étonné, donc, le jour de la proclamation. Voilà, le professeur aussi, il doit être modèle. Si un étudiant arrive avec de tels cas, il faut nécessairement les condamner et les sanctionner fort pour un peu décourager ce système. Merci beaucoup, je dis Daniel Kachama.
Bien. Merci, monsieur Uchume, depuis Mahagi. Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi dans le Lualaba. Bonjour.
Si je dis, je salue l'invité et les auditeurs. Hein.
Ok.
Vous m'entendez?
Oui, on vous écoute.
Oui, merci du choix du thème, parce que la fois passée que l'invité passait, c'était quand il y avait une inauguration de cette université-là. Nous devons d'abord savoir que si aujourd'hui nous en sommes à parler de la rigueur et la discipline dans les milieux universitaires, les universités sont ici considérées comme la dernière étape qui accueille scientifiquement une personne. La discipline et la rigueur ne devraient pas que commencer à l'université, mais dès la maison paternelle. Les parents, si vous voulez. Il y a l'école maternelle. C'est là qu'on apprend à écrire et à parler. La lettre A, la lettre B, papa, maman. C'est à l'école maternelle. Après, l'école maternelle vient l'école primaire, l'école secondaire et l'université. Si quelqu'un s'en va à l'université, nous considérons que la personne sait déjà bien écrire et bien parler. Parce que je vois mal un professeur d'université dire « Monsieur Tel, venez ici nous écrire bonjour. » Non, ça c'est comme un passe-temps. Donc, avant d'aller à l'université, soyez sûr que vous avez eu à bien faire votre école maternelle, primaire, secondaire, parce que c'est là qu'on apprend à écrire et à effacer toutes les fautes. Ça c'est un. Donc l'université ici n'est pas vraiment responsable du fait que certains enfants sont
indisciplinés.
Indisciplinés et aussi qui n'ont pas de la bonne formation, qui ne savent pas écrire et parler. C'est pas l'université qui est si vous voulez responsable. Elle est quelqu'un seulement ceux qui sont venus d'ailleurs et qui s'en vont pour pouvoir finir leur cursus académique, si vous voulez. Ici, j'aimerais que m'adresser directement à l'invité, j'aimerais lui dire que moi, personnellement, je suis natif de l'Église catholique. Si on lui avait choisi pour qu'il soit recteur de cette nouvelle université, c'est pas pour rien. C'est par le résultat que nous voyons ici dans la société des écoles, de la différence marquante des écoles catholiques de ces autres écoles. Regardez la discipline qu'il y a dans les écoles catholiques. C'est par cette conscience que, je suppose, l'État a dit, prenons quelqu'un de rigoureux, des catholiques. Je l'ai entendu dans sa prise de parole plusieurs fois, il a donné des exemples, vous pouvez comprendre qu'il y a de la rigueur de ce côté-là. C'est parce que nous, Congolais, ne sommes pas habitués à cette rigueur de l'Église catholique que nous nous imprégnons. On nous traite comme des élèves, on nous fait ceci, 2000 francs pour cotiser. C'est ça la discipline, monsieur. C'est ça la rigueur. C'est comme ça que vous allez voir que cette université va se démarquer pendant plusieurs années. Parce qu'ici, tout le monde est en train de regarder le recteur qui est sur le plateau pour voir le côté faible. corruption et consorts pour qu'on puisse insulter plus tard. Vous dites, ça c'est quel, vous disiez autrefois que l'Église catholique était la meilleure, mais regardez le représentant. Alors, tenez bon, cher lecteur, monsieur l'abbé. Tenez bon, restez constant, regardez. Parce que plus tard, même après votre passage, on se souviendra de vous, de votre passage, comparativement à ceux qui vont vous succéder pour dire tel était un bon. Alors ici, ce ne sont pas les universités qui font de ces étudiants les étudiants cancres, excusez-moi l'expression.
Donc, d'accord.
Ceux dont les professeurs ne peuvent venir.
D'accord, merci beaucoup.
Dès le bas âge.
Dès le bas âge, dès la famille, à partir de la famille.
L'école maternelle.
Oui. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, vous avez la parole.
Bon, je voudrais dire merci à Jeannot Louembo. Et je pense qu'il a, comme il a dit, c'est dès le bas âge, dès la famille. Donc l'université, c'est vraiment au bout du chemin de formation. C'est vrai que la formation est continue.
Donc les valeurs, l'éthique, c'est d'abord
en famille. Ça s'apprend à l'école primaire. Alors lorsque à l'école primaire, au lieu d'aider les enfants à apprendre à lire, à écrire, à travailler par eux-mêmes, vous les poussez plutôt à la corruption. Donc à l'université, on va avoir justement des problèmes, comme il a dit, quelqu'un qui ne sait pas écrire bonjour ou qui ne sait pas conjuguer le verbe être ou des choses comme ça.
Oui.
Donc là, c'est capital. Donc comme je l'ai dit, disons non, cette crise, elle n'est pas seulement à l'université, elle est précédée dans les autres étapes de formation. Maintenant, il y a Étienne Ochoumé. Il a souligné quelque chose deux choses qui sont importantes. C'est-à-dire, il faut que l'enseignant, le professeur, n'oublie pas qu'il est formateur, qu'il est éducateur. Donc, on est dans l'auditoire pour, disons, pousser à la curiosité, réveiller la curiosité intellectuelle, transmettre de méthodes de recherche, pousser à la connaissance, à la recherche et tout. Mais on est d'abord un éducateur de conscience. Et donc, un enseignant qui s'est fait corrompre. Mais il perd son statut d'éducateur, en fait. Qu'est-ce qu'il représente devant ces étudiants-là? Quand ils le voient, qu'est-ce qu'ils pensent de lui? Qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ils le reverront 20 ans après. Qu'est-ce qu'ils diront de lui?
Et donc, la discipline, c'est pas seulement les auprès des étudiants, mais les enseignants et même dans les discipliner. Parce que certains perdent les côtes. Oui. Ça arrive souvent dans nos universités.
Ouais. Alors, l'autre point important qu'Étienne a souligné concerne la maîtrise de nos langues. Il a parlé du français, mais pas seulement le français, c'est-à-dire nos langues maternelles, le Tshiluba, le Lingala, le Swahili, le Kikongo, comment nous les parlons. Beaucoup parlent très mal. Alors nous, on a remarqué cela, que la maîtrise du français, c'est un problème général pour nos étudiants.
Là-bas, sur les campus, ils s'expriment en quelle langue? Là-bas, c'est l'IOM.
Bon, Tshiluba, français.
C'est autorisé, ils peuvent parler plusieurs langues.
Oui, comment vous allez réguler? Vous n'allez pas réguler ça. Mais maintenant, cette maîtrise-là, elle pose aussi des problèmes chez certains enseignants, chez certains professeurs. Donc là, c'est un problème réel. Et nous venons de créer à l'université officielle de Mbujimayi le centre professeur Bertin Makolo Moussassoua, un prof émérite de l'UNIKIN, qui est l'un des pionniers de l'université officielle de Mbujimayi. Ce centre-là, c'est l'école des langues vivantes. Où on va, les gens qui veulent vont réapprendre le Tshiluba, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, et d'autres langues. On va offrir cela.
Donc, les étudiants qui ont des lacunes en français, ils peuvent
même
aller.
Même des enseignants ou des professeurs qui veulent pour l'anglais ou pour je ne sais pas quoi.
Monsieur l'abbé, on n'a plus beaucoup de temps. On est déjà à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on retient en quelques secondes?
Par rapport à la discipline. Je pense que, tout ce que l'université peut apporter à ce pays, c'est former une main-d'œuvre compétente, disciplinée et honnête. Et ça s'est fait dans la rigueur. Et il faut une université rigoureuse qui, si elle était financièrement accompagnée suffisamment accompagnée par l'État, qui commence à le faire, n'est-ce pas, devrait vraiment être une université un peu élitiste, où la sélection devait être rigoureuse. Ou quand on dit de quelqu'un qu'il est juriste,
il est vraiment juriste. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Comment assurer un bon encadrement de l'artisanat minier en République démocratique du Congo? On en parle dans les minutes qui suivent avec Monsieur Jean-Paul Kapongo, directeur général du SAIMAP, le service qui s'occupe de l'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle. Des questions et préoccupations, appelez-nous déjà pour participer à cette émission au Capi Service. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. service@radiocapi.net. Vous pouvez également laisser un commentaire sur la page Facebook de votre magazine de la vie au quotidien. Benjamin Moudoumbi sur la coordination et la réalisation, Dieudonné Nyangassa à la mise en onde, au micro Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute de votre magazine de la vie au quotidien.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Et oui, bienvenue à tous dans cette deuxième tranche de votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, à présent, nous allons échanger autour de l'artisanat minier en République démocratique du Congo. Comment assurer un bon encadrement de ces secteurs? Vous savez, l'artisanat minier est un secteur économique majeur, mais pas bien encadré selon de nombreux observateurs. Les exploitants artisanaux travaillent dans des conditions de sécurité extrêmement dangereuses, sans équipement, des protections. Les risques d'effondrement, d'asphyxie et d'inhalation des produits toxiques sont élevés. Par ailleurs, les artisanaux se plaignent souvent du manque des zones d'exploitation artisanale viables. Ils sont contraints d'opérer illégalement dans les concessions des grandes entreprises avec les risques de perdre la vie. Autre chose, on déplore les interférences des politiques, des généraux et autres hommes forts dans les secteurs de l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre de l'ordre dans ces secteurs? Et quel est le rôle du SAIMAP dans l'encadrement des creuseurs artisanaux? Le SAIMAP, c'est le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le directeur général de cette structure, Monsieur Jean-Paul Kapongo, directeur général du SAIMAP. Bonjour et bonne année.
Bonjour, merci et bonne année, Monsieur les journalistes.
Bien, c'était un plaisir de vous retrouver, de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission. Parlez-nous d'abord du SAIMAP. Quelles sont les missions, les objectifs de ce service d'encadrement des artisanaux?
Écoutez, merci tout d'abord du privilège que vous m'accordez dans la chaîne de la paix. La chaîne de la paix, une chaîne que nous avons grandi avec. Je me rappelle pour une petite histoire de ma vie. Et avant que je présente mes examens d'État au niveau du Kasaï central à Kanangama.
À Kanangama, précisément.
À la province. Je pense que Radio Capi a vu ce jour à Kanangama, ce n'était pas loin de mon avenir. On dormait, on se réveillait avec la radio de la paix. Une radio de la fierté. C'est vrai, aujourd'hui, je peux vous jeter tous les fleurs possibles parce que je ne m'attends pas que demain, je le fasse quand cette radio ne sera plus. Je suis du genre des personnes qui parlent ce que je pense. Voilà. Ça, c'est un ricochet. Puis, je vous félicite. Je connais beaucoup. Voilà, aujourd'hui, la Radio Capi a produit beaucoup de fruits. Nous avons Maman Tina Salama, aujourd'hui, qui est la porte-parole du chef de l'État. Vous savez, quand il prend la parole pour parler, c'est une fierté pour toutes les femmes de la
République. Oui, évidemment.
Ouais. Ah oui, vous savez, nous avons Emmanuel El-Menji Wakabedi.
Wakabedi.
Lorsqu'il parlait du Mbujimayi là-bas, Kasaï Oriental, chez nous, et tout le monde était fier. Et aujourd'hui, nous
Basile Bakumbane, on a eu beaucoup.
On en a beaucoup.
Oui,
à et vous-même, là-bas, Kachama, n'est pas n'importe qui.
Merci.
Et Madame Kelly Kuta, tout ça. Donc, ça fait la fierté de la République de Monté. C'est ça, la variété même de mon pays. Voilà, vous voulez que je parle du SAIMAP? Je vous dis d'abord merci de m'avoir invité ici et de parler de mon service, où je suis le directeur général nommé par le président de la République, par son ordonnance, depuis 2022. Vous avez dans votre introduction, dit que les artisans non, c'est plein, ils ne sont pas bien organisés et tout, et tout, et tout. C'est tout à fait d'accord. Il fallait communiquer. Il fallait parler. Il fallait faire approcher cette population qui était abandonnée. Aujourd'hui, avec mon avènement, le SAIMAPI, il est très bien organisé sur le plan international et sur le plan national.
Alors, quel état des lieux vous faites du secteur de l'artisanat minier?
Je vais vous laisser.
En RDC.
Ne vous en faites pas. Mmh. Le SAIMAPI, c'est quoi d'abord? Parce qu'est-ce qu'ils appellent la SAIMAPI, les autres appellent le SAIMAPI. Mmh.
C'est le service.
Exactement. Voilà. C'est un service public de l'État doté d'une autonomie administrative et financière qui a été créé dans un conçu du ministre du décret 0017, donc depuis 2017, avec l'avènement de son excellence et aujourd'hui sénateur, ancien premier ministre, Sami Badibanga, qui a fait l'imitation, je vais dire, ou bien la réforme, parce que on était d'abord SAISCAM depuis 2003, que ce service a été créé. En 2017, nous avons suivi une mutation de quitter du SAISCAM pour élaguer tout ce qui était des mots
anglophones.
Et puis, vous savez que SAIMAPI, c'est pour les Congolais. Voilà. Nous sommes un service qui est là pour encadrer tout ce qui concerne les artisanaux, appelés autrefois CRESER. Les mots consacrés dans les codes miniers, ce sont les artisanaux aujourd'hui qui se sont regroupés dans des coopératives minières. Et le DG du SAIMAPI qui est en face de vous, Jean-Paul Kapongo Kadjoubo, que les Congolais aujourd'hui apprécient de sa franchise dans la manière où je fais mon travail, d'où je fais ce travail pour permettre à ce que les Congolais qui travaillaient en solo soient les propriétaires de leurs mines. Parce que moi je me dis, je ne fais pas la guerre aux industriels, mais je voudrais faire comprendre aux industriels que les cahiers des charges n'ont jamais été respectés. Par exemple, je parle des études d'impact environnemental, je parle des études de faisabilité, je parle du plan d'atténuation, de réhabilitation et tout ce qui est présenté avant d'être détenteur d'un titre minier au niveau du cadastre minier. Moi, je viens de l'administration des mines et vous savez que c'est nous qui traitons tous les dossiers. On pouvait évaluer les dossiers par rapport à la capacité financière. Et maintenant, aujourd'hui, les mines ne vont pas basculer tout simplement pour ces industriels, des fois, qui n'ont rien fait pour la République selon les filiales, selon la province. Et la République démocratique du Congo, c'est un pays à vocation minière, comme vous le savez, je l'ai dit partout. Nous ne méritons pas ce que nous méritons aujourd'hui. Il faut changer, il faut certifier nos minéraux, il faut remettre le titre minier aux Congolais, il faut donner les entités de traitement aux Congolais pour que les Congolais deviennent le propriétaire de leur titre minier. Voilà.
Bien, alors, quel état des lieux vous faites du secteur aujourd'hui? Depuis votre arrivée à la tête du SAIMAPI, il y a presque 4 ans, dans quel état vous avez trouvé l'exploitation minière artisanale?
Écoutez,
dans notre pays?
Cher journal, j'ai trouvé un service qui n'était pas connu dans ces pays. Vous savez, on nous critique, nous, les mandataires qui viennent du parti présidentiel. Je vais les préciser. On pensait que IDPS n'avait pas produit aujourd'hui de meilleurs mandataires, de meilleurs ministres. Les gens se trompent. Le chef de l'État n'a pas fait un choix à hasard. Il a fait. Ça n'a pas été facile pour être nommé directeur général du SAIMAPI. C'est depuis 2003. Vous pouvez vous imaginer. C'est pour la première fois que le directeur général du SAIMAPI est appelé à la radio Capi, la radio de la paix. Quelle année? 2026. Parce qu'il y a un DG. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait montrer aux Congolais de consommer leur nourriture de base. C'est quoi? C'est le SAIMAPI. Aujourd'hui, les gens peuvent comprendre le SAIMAPI. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent appeler. Aujourd'hui, l'état des lieux, vous voulez parler de quoi? La cartographie des sites.
La cartographie
miniers,
des sites d'exploitation à travers le pays.
Aujourd'hui, à 1123 sites miniers, je parle, ça c'est pour or, donc la filiale aurifère. Là, je pars, je prends la partie orientale.
Ituri, dans la province, c'est la Tchopo.
Tchopo, Ituri, Bazuele, Isiro, l'ancien Kisangani et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis Maniema aussi, une partie de Maniema. Une partie aussi du Kasaï central, précisément à Luisa. je fais la cartographie, nous sommes à 1123 sites miniers
d'or. Aurifères.
Aurifères. Nous avons 1111 sites miniers d'étroité. Là, je parle de la castorite, tout ce que vous comprenez aujourd'hui, les minéraux de transition énergétique.
Oui.
Maniema, vous êtes à Tanganyika, vous êtes aussi à une partie au niveau aussi de Isiro, et surtout au niveau des Nord et Sud Kivu aussi. C'est ces minéraux qui nous créent beaucoup de problèmes aujourd'hui. On est en guerre à cause de tout ça. Voilà. Nous avons 60 sites miniers de diamants. Donc là, je parle du Grand Kasaï. Là, je prends.
Donc les trois, quand vous parlez du 3T, il s'agit de l'étain, les tungstène,
tout ça.
Et tout ça.
Ce sont les minéraux de la transition
énergétique. De la transition énergétique.
Ce qui fait la téléphone que vous avez à main là, c'est ces minéraux-là. Ma tablette que j'ai en face de moi, c'est celui-là. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en Europe, partout là-bas, les véhicules qu'on est en train de fabriquer, tous ces véhicules-là, caractère électrique, qui n'ont plus, qu'on n'a plus même pas besoin de mettre du carburant, tous ces véhicules-là, c'est à cause de ces minéraux, de la transition énergétique. Nous avons, je voulais parler de 148 sites miniers de cuivre cobalt. Je suis dans l'espace du Grand Katanga. Je prends Tanganyika, Olomami, Ilualaba et
le Haut-Katanga.
Le Haut-Katanga, voilà. Ça, c'est la mer même. Voilà. Donc, qui a engendré toutes les autres provinces. Donc, ça peut vous montrer que le DG du SAIMAPE a mis aujourd'hui les statistiques que personne ne peut se mettre aujourd'hui debout pour donner les faux statistiques.
Parce aujourd'hui, on parle de près de 1445 coopératives des artisanaux. 1445 coopératives.
Non, nous avons 1445 coopératives depuis mon avènement. Ça, c'est les coopératives qui ont suivi les procédures normales, donc qui ont pu déposer. Parce que nous sommes dans la radio. Okapi, c'est une radio de la paix. On nous suit partout en République démocratique du Congo. Il faut que les gens comprennent comment on commence la procédure. Pédagogiquement, par là, je pense que comment être appelé une coopérative minière. Parce que à mon avènement, j'avais trouvé beaucoup de coopératives mallettes. J'avais aussi trouvé des comptoirs bidons. Et c'est ce qui créait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, à mon avènement, je devais savoir. Et cette coopérative a pu payer 5000 dollars au niveau de la division des mines au travers la DGRAT. Est-ce qu'il y a la preuve de paiement? Est-ce que cette coopérative a pu déposer 20 photocopies des cartes de lecteurs des Congolais, de père de mère, au niveau de la division des mines? Est-ce que cette coopérative a pu obtenir, comme on appelle, les statuts notariés qui a été transmis avec de preuves en annexe au niveau de la direction des mines qui est en face de la commune de la Gombe, qui traite tous les dossiers au travers pour obtenir ce qu'on appelle la coopérative? Du coup, est-ce que cette coopérative a obtenu l'avis favorable de la direction des mines, de directeur du service de mines, qui envoie au ministre en déant 27 jours. Est-ce que le ministre des Mines, à son tour, a pu signer l'agrément à qui il a envoyé pour l'exécution auprès du secrétaire général des Mines, ou le secrétaire général des Mines qui fait l'office du chef de l'administration a transmis en original cet agrément au niveau du directeur général du SAIMAPE? Voilà ce que j'ai élagué quand j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup.
Il y avait beaucoup de désordres aujourd'hui.
Des désordres qui permettaient que Rwanda entre. Des désordres qui permettaient que Rwanda donne l'argent. Des désordres qui permettaient que Rwanda trouve la possibilité d'accéder facilement au Congo. Mais depuis mon avènement, tout est fini.
Voilà. On va accueillir les auditeurs qui vous suivent et qui aimeraient bien échanger avec vous par rapport à l'encadrement de l'artisanat en République démocratique du Congo. Jeannot Louembwe, vous êtes à Kolwezi. Bonjour. Jeannot Louembwe de Kolwezi, bonjour. Merci d'ouvrir vos micros. Thomas Ougeni à Kisangani, bonjour. Allô, Jeannot? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, moi c'est Patient David Mukendi depuis Matadi actuellement.
Ah, c'est plutôt Patient depuis Matadi. On vous écoute, Patient.
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. J'aurais bien voulu intervenir dans la première partie, mais bon, voilà. Le temps n'a pas permis. Bon, c'est toujours un sujet pertinent, l'artisanat minier. Je voulais poser la question au directeur général de l'OCMAP. Parce que les troubles qu'il y a eu à Colusi tout récemment touchent aussi à son service. Comment ils ont pu gérer cette situation? Parce que les Kaisers, moi j'étais à Colusi en ce moment-là, j'ai vu comment le groupe des Kaisers se sont, si on peut appeler ça, rébellés contre la décision du ministère national de mines.
Suspendant les unités de traitement.
Oui.
Suspendant le traitement de produits de la chaîne cuprocobaltifère.
Voilà. Pendant que la majorité de la jeunesse à Colusi, terrain, moi, ayant été là-bas, vit ou dépend de cette activité de l'exploitation artisanale. Et donc, nous avons vu depuis le pays, vous êtes mieux placé pour avoir des informations correctes, il y a eu sur place. Et donc, à son niveau, en tant que directeur général de l'enseignement, comment il a pu gérer cette situation et où en sommes-nous en ce jour?
Bien, merci beaucoup, patient, d'avoir appelé. Jeannot Louemboué, vous êtes là? Gentil Bassekwamba, depuis Kananga, Malandjou en Chine. Gentil, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour aussi à tous les invités que monsieur Mbassekwamba.
On vous écoute, monsieur Gentil.
Vous pouvez me laisser même dire pour laisser vos points de vue là, puis poser des questions. Ou bien vous voulez que je pose une question?
Allez-y, on vous écoute.
Ok. Aujourd'hui, l'artisanat minier, c'est un secteur économique majeur, mais il reste mal encadré. Sur le terrain, les créateurs artisanaux travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses, souvent sans casque, sans boîte, sans gants et sans aucun équipement de protection. Les risques sont énormes. Il y a des effondrements depuis des cas asphyxie, des maladies liées à l'inhalation, des produits toxiques, sans oublier les morts qui passent parfois sous silence. Une autre difficulté concerne le manque de zones d'exploitation artisanale viable, faute de sites bien identifiés et sécurisés. Les réserves sont contraintes d'entrer légalement dans les protections des grandes entreprises minières, ce qui les expose à des violences, à des arrestations et parfois à la mort. Il faut aussi souligner un problème très sensible. Les interférences de certains politiques généraux ou autres hommes forts dans les secteurs d'investissement.
D'accord. Merci. Maintenant, quelle est la question? Vous avez bien planté les décors. Okay. Allez, passez à la question maintenant.
Ok. Donc, je pose maintenant presque trois questions seulement.
Oui.
Quel est exactement le rôle du CAIMAP dans l'encadrement des grésaires artisanaux? Pourquoi CAIMAP? Deuxième question, pourquoi le CAIMAP peine-t-il à imposer l'ordre et la sécurité sur les sites artisanaux? Troisième question, quelles mesures doivent être prises pour garantir la sécurité des exploitations artisanaux? Quatrième question, comment créer et rendre viable de véritables zones d'exploitation artisanale? Cinquième question, s'il vous plaît, que faire face aux interférences des politiques ou des hommes armés dans ce secteur?
Merci beaucoup, Gentil Bassekwamba, depuis Kananga. Thomas Ougeni, de Kisangani, vous êtes là? Ou Jeannot Louemboué? Voilà, Thomas Ougeni, vous êtes là depuis Kisangani, Boyoma. Bonjour. Bonjour, Thomas. Voilà, je pense qu'il n'est pas encore allé.
Je peux déjà répondre à des questions.
Oui, bien entendu.
Je commence par notre ami de Kananga, de ma province.
Oui.
Il s'agit de monsieur
Gentil Bassekwamba.
Gentil Bassekwamba, tu as besoin d'écoute. Écoutez, je vais te rappeler une chose, les SAIMA passent l'assistance et le suivi et l'encadrement des activités minières artisanales sur l'ensemble de la République démocratique du Congo conformément aux dispositions du décret au numéro 17/009 du 4 avril 2017. Ça c'est, tu as posé trois questions. Deuxième question, tu poses la question par rapport au danger que tu constates qu'il y a beaucoup des artisanaux, pas d'encadrement et tout. Oui. Écoutez, le SAIMAPE fonctionne avec sa première ressource qui n'a pas été payée par je n'acquise pas mon pays, mais je sais que c'est déjà en téléchargement parce que son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pu donner des instructions aux membres du gouvernement pour que cet acte soit directement payé. Les 16% des droits superficiels reconnus par l'article 198 du Code minier, dont le directeur général que je suis, j'ai le pouvoir de rétrocéder à chaque communauté locale les 10% pour le développement de la communauté. C'est pas ma faute, c'est depuis 2003 que cet acte n'a jamais été activé. Mais c'est à l'avènement du chef de l'État et actuel ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, qui a pu vraiment défendre les dossiers au niveau du conseil de ministres où beaucoup de ses collègues ont adopté, ils ont compris les caractères qui incombent à mon service. C'est pas ma faute. J'en ai fait un chat de bataille depuis ma nomination. J'en ai parlé à Radio Boussolo. J'en ai parlé Top Congo. Aujourd'hui, je suis à la Radio de la Paix.
Donc, depuis tout ce temps, vous n'avez pas les moyens de votre politique.
On n'a jamais donné cet acte. On n'a jamais, le pays, l'État n'a jamais payé ça. Je ne sais pas, mon collègue, pas pour citer son nom, où le cadastre minier reçoit les 50% à la source, il y a un 50% dont on nous renvoie dans les trésors publics. Il y a une clé de répartition qui est faite, dont le SAIMAPE devait bénéficier le 16% qui n'a jamais déjà payé au SAIMAPE. Je me suis posé des questions depuis 2003 jusqu'à ma nomination en 2022. Mais j'ai fait les calculs, j'ai fait les calculs, je n'ai pas honte de vous le dire. Depuis 2000, moi je n'ai même pas reculé vers 2003, mais j'ai commencé par 2018 où nous avons connu la réforme de notre code minier. C'est un droit. Les codes miniers, c'est la Bible pour nous, le secteur minier. C'est aussi accompagné avec l'article 402 du règlement minier qui est la mesure d'application. Ce sont les deux documents qui ont été votés ou d'abord par les honorables députés, les élus légitimes du peuple congolais, et le chef d'État, à l'époque, M. Kabila, il a promulgué ça. Donc ce n'est pas le problème du directeur général, c'est un acte, c'est la ressource principale qui fait que SAIMAPE fonctionne normalement. Deuxièmement, la deuxième difficulté sur le plan technique, méthodologique, j'ai trouvé un service par lequel il n'y avait pas, on a créé un service dans un conseil du ministre, dans un décret du premier ministre, bien entendu, où il n'y avait pas de ZEA. C'est aujourd'hui que les gens, quand même, puissent parler de bien de nous, avec l'avènement du ministre Louis Watum Kabamba, que je salue en passant, qui a pris son courage.
Alors,
il monsieur a trouvé le travail que j'ai fait. Il y a beaucoup de ministres qui y ont passé, je ne peux pas citer leurs noms ici, qui depuis ma nomination, qui n'ont pas pu trouver leur courage pour signer les zones d'exploitation artisanale.
C'est ça d'ailleurs la grande question.
Exactement.
Parce que les artisanaux se plaignent souvent,
oui,
ils n'ont pas d'espace pour exploiter, ils sont obligés d'aller squatter.
On n'a jamais eu de ZEA au Congo, il n'y en a pas eu.
Les zones d'exploitation
artisanale. C'est maintenant d'ailleurs, je profite de l'occasion du micro de la Radio de la Paix, Radio Capi, pour annoncer à toute la République démocratique du Congo, une visite guidée sera faite par le directeur général. Je commence par les provinces pilotes. J'ai choisi au Katanga et puis là-bas. Parce que ce sont, les gens pensent que la République, ce sont les deux provinces. Non. Ça, c'est par rapport à ce qui concerne la filiale qui pro-combatifère. Parce que c'est ce qui fait beaucoup de bruit. À part là-bas, je dois partir à la partie du Grand Kasaï. Mbujimayi, Kananga, Tshikapa, Olomami. Et après, et puis je vais faire visite guidée vers la grande province orientale. Je serai à Ituri, je serai à Isiro, au Bazuele, au Tuele et partout là-bas, juste pour maintenant déclarer et
commencer les zones à faire d'exploitation minière.
Exactement. Déjà, je salue le courage du ministre des Mines avec le membre du gouvernement parce que aujourd'hui, j'ai proposé un travail que le ministre des Mines a sanctionné avec son arrêté, avec ses signatures. Donc, au niveau du Lualaba, on n'avait qu'une seule zone d'exploitation, c'est-à-dire depuis 2017, la zone de 1786 de Kasulu.
Une seule.
Une seule qui a pu stabiliser la province du Lualaba depuis le temps de Mouyej-Manguez avec l'actuel gouverneur. Pardon?
Pour combien d'artisanaux?
Non.
Parce que là-bas, on parle de autour de 200, 250 000 artisans.
Non, mais qui donne ces statistiques? Qui donne ces statistiques?
Bon, ce sont les, c'est ça qui...
Vous savez, si je vous donne les chiffres qui a été donné par la Banque mondiale, vous êtes par exemple à... Vous savez, moi je n'aime pas donner des histoires. Hein. La Banque mondiale à l'époque, ils ont donné plus de 20% de la production des filiales cyprocombatifères. Donc ils étaient dans ça. Mais la Société CEPEM, qui est notre serviceur, c'est celui qui peut vous donner aujourd'hui les vraies statistiques qui sont transmises par les services SAMAP. Si vous voulez que je vous donne les statistiques province par province, au niveau du Lualaba, du Haut-Katanga, c'est plus... Des fois, les gens parlent des artisanaux, mais ils ne comprennent pas comment le pays fonctionne. Aujourd'hui, je suis devenu comme les stabilisateurs pour stabiliser les provinces. Pourquoi?
Alors, les statistiques dans le Katanga, on est autour de combien? Dans le Lualaba et le Haut-Katanga?
On est au-delà des 1 million.
1 million
d'artisanaux. Je vous dis la vérité. Parce que tous ces artisanaux-là, ils sont en brousse. Ils vivent autour du jour, autour des... Je ne parle pas des artisanaux seuls. Ils ont des petites, comment on appelle, boutiques. Ils ont des dispensaires. Ils ont des maternités. Ils ont des cabines. Ils ont des shops où ils vivent autour du jour. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous prenez la décision de faire chasser tout ce monde-là.
Vous avez suivi la question d'un auditeur dernièrement au Lualaba. Il y a eu des troubles, la colère des artisanaux.
J'ai compris.
Par rapport à...
C'est par rapport à l'arrêté qui a été signé le 19 décembre par son instance, monsieur le ministre.
Voilà,
c'est
suspendant
pour
les unités de traitement.
J'ai déjà donné la position. Les artisanaux doivent m'écouter, moi, c'est leur patron. Le ministre des Mines agit en tant que membre du gouvernement, en même temps, avec toutes les responsabilités, parce que le pays est en train d'écrire une histoire. Le chef de l'État et le ministre des Mines, ils ont été aux États-Unis, ils ont signé l'accord économique pour les minéraux stratégiques. Donc on ne va pas laisser le pays être géré par des réseaux sociaux, par des collectifs, des artisanaux qu'on ne connaît pas, par les codes miniers, règlements miniers.
Mais pourquoi il y a eu ce mouvement de colère?
Il y a eu ce mouvement de colère parce qu'il y a eu des manipulations politiques. Et je dénonce avec toute énergie. Je vais dire ceci. Le pays ne doit pas être géré par des bandits par lesquels ils se sont retrouvés dans les secteurs sans qualité. L'article 5 du code minier interdit. Commençant par moi-même, les DG du SAIMAP. Moi d'ailleurs, je m'efface. Commençant par le numéro 1 de la République, chef de l'État. Les gens ont la légèreté de citer la famille du chef. Ils ont la légèreté de citer le chef. Ils ont la légèreté de citer le ministre des Mines. Qui gère le ministère des Mines? C'est le ministre Louis-Atoum Kabamba. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui signe les décrets. Et je vais parler des arrêtés pour agréer les entités de... Le ministre des Mines n'a pas suspendu les activités artisanales. C'est moi, le DG, qui gère toutes les coopératives sur l'ensemble de la République du Congo. Pourquoi je suis ici? Alors si le ministre a suspendu, pourquoi je suis ici?
Il avait suspendu les activités de traitement.
Il a suspendu les entités de traitement.
La question...
Et puis le débat est ouvert au niveau de notre cabinet, au quatrième niveau, au bâtiment intelligent, que les gens passent là-bas, qu'ils nous présentent leurs documents. Notre souci, c'est de savoir où est-ce que ces entités de traitement sont approvisionnées. Parce que non, les coopératives, s'il dit ça, les entités de traitement sont approvisionnées par les coopératives minières. Nous avons les entités de traitement de catégorie A, ça c'est pour les Congolais. Nous avons les entités de traitement de catégorie B, c'est pour les étrangers. Mais qui les approvisionne? Aujourd'hui, vous avez des nangas, vous avez des bandits qui ont voulu et déstabiliser les institutions établies de la République à cause de leurs calculs. Et nous n'allons pas leur donner la place.
Donc ce mouvement de colère-là, c'est tout simplement...
Il n'y a pas une colère, il y a la paix, mais non. Parce que les gens n'avaient pas été bien communiqués. J'ai parlé, ils ont compris que le chef a parlé, c'est fini, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le ministre n'a pas retiré l'arrêté. La commission continue le travail. On a clôturé la loi là-bas. Pour votre information, je vais vous dire que nous avons suspendu. Le ministre a pris les mesures partielles pour suspendre la société L'Huile Ressources. Une société qui n'a même pas un décret. Une société qui n'a même pas,
un statut,
même pas des documents, mais qui vous font des millions aux pertes des Congolais. Je vous l'ai dit, je suis à la radio.
Des sociétés tenues par des sujets chinois.
Non, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais je vais vous dire, aucun Congolais n'a une entité de traitement, mais ça, ça me fait mal. C'est comme une diarrhée qui me fait chaque jour quand je me réveille le matin. Je gère un secteur très sensible comme ça, où mes frères, mes papas, mes mères, mes frères à moi, mes sœurs n'ont même pas des entités de traitement. Ils font que des bruits dans des réseaux sociaux. Ils sont en dessous de l'arbre au lieu d'ouvrir les yeux pour obtenir. C'est comme ça que j'ai lancé la campagne de formalisation pour quitter de l'artisanat minier vers... je vais faire la mutation vers la petite mine. Comme ça, avec le courage du ministre actuel, nous pouvons obtenir beaucoup plus de titres miniers pour les Congolais.
Bien, on va accueillir Jeannot Louemboué et Kitenge depuis Kolwezi. Bonjour Jeannot. Jeannot Kitenge, bonjour, merci d'ouvrir vos micros. Blaise Atoubou aussi, je vais vous demander de bien ouvrir votre micro. Nous parlons de l'encadrement de l'artisanat minier en République démocratique du Congo avec Monsieur Jean-Paul Kiapongo, directeur général du SAIMAP, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Jeannot Louemboué, vous êtes là? Merci d'ouvrir votre micro, Jeannot. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, on vous écoute.
Oui, monsieur Jody, je salue l'invité et les auditeurs. Merci du choix fait pour le thème. Hein. Tantôt, l'invité, c'est ma petite remarque. Tout c'est apprécié. Moi, je dirais qu'il laisse son travail, être apprécié par ceux qui doivent être fiers. Et ça sera à lui de venir témoigner de son savoir-faire. C'est pour commencer. Je vais finir par une question. Vous avez posé dans le début de l'émission, comment faire pour mettre fin à ces désordres. Laissez-moi déjà vous dire qu'il est difficile qu'il y ait une fin à ces désordres aussi longtemps qu'il y aura de puissants, comme vous avez dit, dont les yeux sont rivés ou seront rivés sur ces parce que tout le monde sait que c'est lucratif, ça porte beaucoup d'argent, ça rend millionnaire. Alors, quand il y aura des yeux de puissance, de puissance officielle, de riche,
il est difficile. Voilà, il y a du bruit tout autour, un instant. Blaise,
non, c'est pas moi.
Blaise, c'est possible de fermer votre micro? Merci Blaise de fermer votre micro. Allez-y, Jeannot.
C'est pas moi, voilà. Voilà, je disais, tant qu'il y aura ces mains de fer des puissants du pays, dont les yeux sont vivés, il est difficile de dire plus de puissants, parce que vous aviez dans votre texte écrit d'un milliard de militaires. Qu'est-ce qui justifie si ce n'est pas pour protéger les officiels? Donc, difficile, parce que c'est l'argent, c'est pas millionnaire. Alors, je vais finir par poser la question. Puis, si nous parlons comment on appelle ça? CMP?
CMAP.
CMAP, hein, voilà. Quelle est la stratégie ou comment le CMAP doit faire pour pouvoir, expliquer son rôle majeur à ce créseur, ces maîtres d'œuvre, ceux qui font du trouble ici? Leur importance et leurs avantages en ayant le CMAP comme accompagnateur. Quelle stratégie le CMAP prendre pour pouvoir leur expliquer dans des termes faciles pour que prochainement, quand il y a une décision comme ça, qu'on ne vive pas le chaos qu'on a vécu il y a pas longtemps. Merci beaucoup.
Merci. Blaise, vous êtes à Kisangani, bonjour. Merci d'ouvrir le micro rapidement, Blaise, bonjour.
Oui, bonjour, cher Jody. Bonjour à l'invité.
Merci beaucoup, mon ami.
En vous écoutant.
Ok, merci beaucoup. Donc, j'allais parler que l'artisanat minier ne doit plus être perçu comme un problème à subir en République démocratique du Congo, mais comme un secteur stratégique à organiser et à valoriser. Donc, je pense que tant que les creuseurs artisanaux resteront marginalisés, non protégés et mal encadrés, les désordres persisteront. Les AMAP doivent être dotés de moyens suffisants, de personnes compétentes comme les DG, j'allais dire ça. Donc, je dois aller tout juste à quelques questions, vu le temps qui nous reste, hein, cher Jody.
Allez-y.
La première question, quels mécanismes de contrôle citoyens peuvent être renforcés la transparence dans la gestion des sites artisanaux? La deuxième question, les taxes et redevances perçues dans l'artisanat minier profitent-elles réellement aux communautés locales? La troisième question, quelle stratégie concrète pour éliminer durablement le travail des enfants dans les mines artisanales? Et pour chuter pour cette série de questions, comment transformer l'artisanat minier en un levier durable de développement local? Je me limite à ces quatre questions, car je dis que les DGP quand même éclairer l'opinion.
Merci beaucoup. Thomas Ougeni, vous êtes aussi à Kisangani. Bonjour. Thomas Ougeni, merci d'ouvrir le micro. Vous êtes à Kisangani Boyoma. On vous écoute. Oui. Oui, parlez merci, un peu
merci,
plus fort.
Merci, cher Thomas.
Allô.
Merci, cher Thomas. On vous écoute.
Le micro. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, monsieur, je vous dis. Et bonjour à l'invité ici à tous les auditeurs de Radio Okapi. Moi, je vais rapidement avant de poser mes quelques préoccupations. Je passe à titre de l'ordre, pour mettre de l'ordre dans ce secteur, monsieur Jody, c'est d'abord la loi. Je crois la loi est là, la loi de 2000, le code minier de 2018 est là. Mais ce qui est là, c'est l'applicabilité, parce que
exactement.
Dans cette loi, il y a tout est déjà écrit, notamment le licenciement d'exploitation, les normes de sécurité, mais vraiment la réglementation. Donc, c'est à l'usage ici l'éviter, de l'impact environnemental. Tout ça, c'est déjà prévu dans le code minier. Et ce qui est là, c'est l'applicabilité qui pose un sérieux problème. Deuxièmement, également, il y a la formation quelque part qui doit promouvoir, en tout cas, la formation quelque part. Parce que, je crois, l'année passée, il y a ce qui s'est passé au niveau des colleuses, on a retrouvé des mineurs, qu'on soit. Et quelque part là, les mineurs n'ont pas leur place d'abord, premièrement, dans des carrés miniers, dans des sites miniers, mais quels mineurs se retrouvent comment là? Ça c'est une grande question qu'on pourra se poser. Et ces agents qui travaillent, ces acteurs qui travaillent dans ce secteur-là, est-ce qu'ils sont formés? La formation doit être mise en application, doit être leur appliquée pour qu'ils puissent bien se protéger. Deuxièmement, également, il y a aussi les renforcements de la sécurité qui doivent être de là. On doit en tout cas, il est crucial d'explorer en tout cas des programmes là, de formation sur la sécurité à travers par exemple les équipements nécessaires pour garantir leur sécurité lorsqu'ils sont en tout cas au travail.
Merci.
Je m'avais directement à poser quelques préoccupations, à poser à l'éviter. La première question c'est quels sont en tout cas les principaux défis auxquels font face les artisanats miniers dans notre pays. Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'aimerais poser à l'invité, quelle stratégie peut être mise en place pour encourager surtout la formation là, surtout de ces agents artisanaux, dans le secteur d'artisanat minier.
Ça, d'accord. C'est la deuxième
question. Et je vais citer par ici, à ce qui est de la formation, monsieur Tati, quel type de programme d'éducation pourrait être amélioré? Quel type, je dirais, de programme d'éducation pourrait être amélioré pour, dans le cadre là, de la sécurité, mais également dans la santé des travailleurs?
Merci. Merci beaucoup, Thomas. D'accord. Merci, Thomas Ougeni, pour toutes vos préoccupations. Monsieur Jean-Paul Kapongo, vous avez la parole.
Monsieur Thomas, merci beaucoup, cher ami. Je suis très content parce que les Congolais s'intéressent à leur service. Voilà. Il y a eu beaucoup de stratégies. Vous parlez de la formation. Dans nos missions, il est prévu que nous puissions apporter l'assistance de la formation à travers les coopératives minières. Parce que nous avons la mission d'inciter les artisanaux de ne plus travailler en solo, mais de les regrouper au travers les coopératives minières. Ça, c'est la première étape que vous devez comprendre. Nous ne nous intéressons pas aux ceux qui s'élèvent le matin, collectif des coopératives. Nous, nous restons dans les codes miniers et maminiers. Je vous salue et puis avec votre courage parce que vous avez rappelé à la République de moitié du Congo le respect des droits. C'est pas Kapongo, aujourd'hui, DG du Salimapé, qui a pu voter les codes miniers, le règlement minier. Nous avons participé à l'élaboration depuis 2018. Il y a l'article 198 du code minier qui nous donne les droits du paiement du 16% que l'État doit respecter. Il y a l'article 402 du règlement minier qui accompagne, qui est comme la mesure d'application. Il y a l'article 542 du règlement minier qui donne la gestion du guichet unique de Saïmapé au travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Parce que le Saïmapé, c'est un service public de l'État doté d'une autonomie financière administrative, mais qui est représenté dans toutes les provinces. Le DG du Saïmapé ne dépend pas d'un seul gouverneur. S'il y a des gouverneurs, parfois, qui s'élèvent le matin, ils signent. Parce que dans cet arrêté, on donne aux possibilités de gouverneurs des provinces, parce que jusqu'à preuve des contraires, le ministre des Mines, le ministre des finances n'ont jamais signé l'arrêté interministériel qui détermine, qui définit les attributions entre la DGI et le Saïmapé. C'est comme ça qu'on donne au moins le minimum du pouvoir au gouverneur de signer l'arrêté provincial, mais dont le guichet unique doit être géré par le Saïmapé. Mais à chaque province, il y a des réalités. C'est ce qui me crée parfois le problème avec des gouverneurs. Ils pensent que je suis contre. Et non, mais il faut le respect de tests. Si cela est respecté, les tests sont clairs, je pense que l'artisanat sera organisé.
Alors, la grande nouvelle que vous avez apportée aujourd'hui, c'est que c'est la création des zones.
Nous avons créé à Lubumbashi
des
déjà.
Zones d'exploitation
pour la filiale qui Procobatifère. Oui. À Lubumbashi, Trentine Zeya. Demain, je prends mon vol pour Lubumbashi pour vulgariser cela. Lualaba, Sosantine, zone d'exploitation, ce sont des innovations qui n'ont, à Lubumbashi, il n'y en avait même pas une. À Lualaba, il n'y avait qu'une. Mais des îles à 64. À Lubumbashi, 60 îles. Ça, c'est. Maintenant, je vais partir, comme je vous ai donné, le programme de ma visite vers les Grands Orientales, vers les Grands Kassai, pour permettre, parce que je vais proposer au ministre des Mines la création des zones d'exploitation artisanale au travers filiale par filiale. Et puis nous sommes, je remercie le ministre des Mines parce que j'ai reçu de sa lettre où il me demande de lui présenter le budget réaliste pour la viabilisation de toutes les zones d'exploitation. Il n'y en avait pas.
Donc, les artisanaux peuvent se réjouir aujourd'hui.
Aujourd'hui, parce ils doivent
qu'ils
être,
ont des
ils
zones.
Ils sont dans l'expectative.
Voilà, ils attendent ces zones d'exploitation.
Exactement, je commence déjà la campagne de vigilisation. Je commence par les hauts Katanga que j'avais choisi, les grands Katanga que j'avais choisi comme les provinces pilotes.
Au après total, là, ça fait combien de zones?
Nous sommes à 286 zones d'exploitation artisanale.
À travers le pays.
Et puis, j'ai même mis toutes les quatre sociétés portefeuilles de l'État. Au niveau du grand Katanga, la Gécamine. Au niveau du grand Kassai, la Miba. Au niveau du grand Oriental, la Sokimo. Au niveau du grand Kivu, la Sakima. Donc, c'est ce que je suis en train de demander à l'État congolais, qu'on mette à la disposition des artisanaux des EIA par lesquels, avec le financement des FOMIN, avec le financement du trésor public, parce que l'État s'est exprimé qu'il va nous accompagner à cela. Donc, le Saïmapé sera un Saïmapé, pas comme on pensait en 2003. Aujourd'hui, avec les 289 zones d'exploitation artisanale.
À travers le pays.
À travers le pays. Filiale par filiale.
Alors maintenant, les coopératives, comment vous allez les caser dans...
Nous sommes dans une phase d'identification de toutes les coopératives. Je vous ai donné les statistiques. On est aujourd'hui à 1400 coopératives minières. Mais je vais au moins vous donner les statistiques que vous avez demandé pour finir. Mm-hmm. Plus de 85% de production du coltan de la RDC congolais, filiale 3T. Ça, c'est ce que j'ai fait avec la CTCPM. On peut voir les statistiques. Nous avons aujourd'hui 70% de la production du diamant de la RDC. Nous avons aujourd'hui plus de 20% de la production de la filiale Kiprocobatifère au niveau du Grand Katang. Et on est environ aujourd'hui à 15% de la production de l'or. Donc ça veut dire que l'or n'était même pas capté.
Voilà. Maintenant, il y a 289 zones d'exploitation
artisanale
qui ont été créées.
Et nous sommes en phase de la formalisation, de la mutation de l'artisanat minier vers la petite mine pour que les Congolais puissent avoir leurs propres titres miniers et leurs propres entités.
On va y revenir prochainement. Monsieur Jean-Paul Kapongo, directeur général du CIMAP. Donc, on n'a plus de temps. On est déjà arrivé à la fin de cette émission. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Et à la prochaine.
C'est moi. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.